Adoptée à l'Assemblée nationale fin novembre 2021, la loi Atangana s'appuie sur l'histoire de Michel Atangana, ce Français d'origine camerounaise, arbitrairement détenu dans les prisons de Yaoundé pendant 17 ans. Maître Stéphanie Legrand du barreau de Paris est l'avocate de Michel Atangana.
Pour comprendre cette loi, il faut revenir à une décision qui a été rendue en 2013 au profit de Michel Atangana par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et c'est une décision qui est extrêmement importante, qui a reconnu le caractère arbitraire de son arrestation et de sa détention, qui a ordonné à l'époque sa libération, la poursuite des personnes responsables et l'indemnisation de ses préjudices. C'est cette décision du groupe de travail qui est à l'origine de la libération de Michel Atangana en 2014. Ensuite, une fois revenu en France, s'est posé la question de la réhabilitation de cet ancien détenu et on s'est aperçu qu'il y avait un vide législatif dans le sens où les décisions du groupe de travail des Nations Unies n'étaient pas directement applicables en droit interne. Donc c'est sur ce constat qu'est intervenu un important travail législatif mené notamment par l'ancien député Pierre-Alain Raffan, qui a porté un projet de loi petit à petit transformé en amendement à la loi justice qui a été votée fin 2021. Amendement aujourd'hui inscrit dans le code de procédure pénale et qui permet aux victimes de s'appuyer à la fois sur les témoignages, sur les rapports d'enquête et sur tout ce qui est fait par les associations, par les organisations diverses et variées et par l'ONU également, de s'appuyer sur tout ce travail d'enquête pour ensuite, devant la justice, faire reconnaître l'infraction dont elles ont été victimes.
Et qu'est-ce que cette loi implique pour l'État français, Maître Legrand ?
C'est un texte qui est très important. On parlait de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, parce que ce sont des décisions qui ont valeur juridictionnelle, même si on les qualifie simplement d'avis, ce sont véritablement des jugements. Et ce sont des décisions qui font suite à un très long travail d'enquête. Donc il y a plusieurs années d'enquête qui sont faites au niveau de l'ONU. La difficulté, c'est que une fois qu'on a cette décision en main et qu'on pense être arrivé au bout du chemin, on ne savait pas jusqu'à présent comment la faire prendre en compte par les juridictions françaises. Aujourd'hui, très concrètement, une personne qui aura fait reconnaître sa détention arbitraire par l'ONU pourra directement produire tous ces éléments et les résultats de l'enquête et les témoignages et tout ce qui aura été fait au niveau de l'ONU devant un juge français dont la tâche finalement va se trouver très fortement allégée puisqu'il aura déjà tous les résultats de l'enquête, il saura quelles sont les parties prenantes, les tenants et les aboutissants et il pourra s'appuyer sur cette reconnaissance du caractère arbitraire d'une arrestation ou d'une détention pour ensuite enclencher les procédures pénales, par exemple en France, en vue de la sanction des personnes responsables et de l'indemnisation des préjudices.
Michel Atangana, vous avez subi 17 années de détention, reconnue arbitraire par les Nations Unies. Vous vous êtes battu pendant des années pour l'adoption de cette loi. Pourquoi ?
Pour limiter les effets des actions discrétionnaires des États. C'est-à-dire qu'il ne faut plus laisser simplement les fonctionnaires décider de la vie des individus qui peuvent être en situation dramatique comme ce qui était mon cas. Donc la loi, c'est de mettre en œuvre réellement les principes républicains d'égalité, fraternité et liberté. Et surtout, protéger la mobilité et tous les biens personnels ou les biens des sociétés que les uns et les autres peuvent avoir en responsabilité.
Est-ce que le fait d'être français d'origine camerounaise a joué contre vous ?
Oui, énormément, parce qu'il y a eu tellement de confusion. Confusion au Cameroun et confusion en France. Et cela a beaucoup pesé sur la non-intervention de la France tout au long de la détention pendant 13 longues années.
13 ans ?
Oui, sans soutien français.
Alors que votre cas était pourtant connu.
Dès 1999, les Américains ont lancé une alerte claire et transparente faisant état d'une détention de caractère politique et donc arbitraire. Une décision majeure des Nations Unies qui montre que toute la détention était arbitraire du premier au dernier jour.
Les procédures sont-elles plus rapides depuis votre libération et votre retour en France ?
Je suis rentré, je n'avais aucun statut. J'avais un statut de libéré par une décision de grâce qui n'efface en rien les séquelles de la détention. Donc voilà le premier effet négatif. Donc depuis que je suis entré, j'ai entamé beaucoup de procédures, l'une au pénal, qui est en très bonne voie, l'une au civil, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui a statué sur mes droits sociaux, retraite et autres, qui étaient totalement abandonnés, et aussi une devant le défenseur des droits, qui peut aider les Français dans les médias. Cette procédure est importante parce qu'elle permet aux uns aux autres de savoir quelles sont les possibilités offertes par les institutions de la République française pour protéger les Français.
Des précisions de Maître Stéphanie Legrand.
Donc il y a plusieurs procédures en cours, une procédure pénale qui a été très largement réactivée en 2021 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris qui a renvoyé le juge d'instruction à instruire sur des faits de séquestration et de torture, donc c'est quelque chose qui devrait aboutir à une échéance proche. Et effectivement, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui est là pour assister les victimes et pour leur permettre d'avoir une indemnisation et de pouvoir au quotidien vivre ou survivre tant que leurs droits n'ont pas été complètement reconnus. Et cette commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qui est apparu dans le dossier de Michel Atangana, c'est qu'elle a été passive pendant un certain nombre d'années, se contentant finalement de botter en touche et de sursoir à statuer en disant « tant qu'il y a une procédure pénale, attendons le résultat de la procédure pénale », sans se demander comment la victime vivait au jour le jour. On a réfléchi à la possibilité de saisir le défenseur des droits, institution qui avait été déjà approchée à plusieurs reprises concernant le cas de Michel Atangana et qui avait toujours refusé de prendre position sans qu'on sache réellement pourquoi. Et on s'est aperçu que le défenseur de droit avait, par ses fonctions et ce qui définit son institution, la possibilité d'intervenir dans des procédures judiciaires. Donc on a monté un dossier qu'on a soumis au défenseur des droits en lui disant « voilà typiquement un cas d'une personne qui ne parvient pas à faire reconnaître ses droits en justice alors même que la matérialité des faits caractérisant l'infraction est reconnue et n'est finalement pas contestée, mais pour autant, on ne parvient pas à activer la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de manière satisfaisante. » Et le défenseur des droits a été sensibilisé au dossier, à tel point qu'il a pris des écritures devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et envoyé un de ses représentants qui est venu plaider à l'audience, qui est quand même relativement rare à ma connaissance, et qui est venu plaider de manière plus générale au-delà du dossier pour reconnaître un statut de la victime et rappeler à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qu'elle devait prendre position et que, à la limite, on n'était pas loin d'un déni de justice puisque la commission était saisie depuis X années et qu'il s'était toujours rien passé. D'où une décision qui a été rendue donc avec ce fort appui du défenseur des droits début 2022, qui a donc reconnu le droit à indemnisation de Michel Atangana et ordonné des expertises pour quantifier son préjudice.
Plus globalement, est-ce que les autres procédures avancent normalement d'après vous, Maître Legrand ?
Par rapport à la durée générale de la justice, je dirais qu'il n'est pas plus lent qu'un autre. Maintenant, dans des cas où il y a des enjeux humains aussi cruciaux, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir justement des procédures plus rapides qui seraient mises en œuvre? Et je pense particulièrement, là, c'est un peu un grief, un reproche qu'on peut faire à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, c'est qu'elle a la possibilité d'octroyer à la victime des provisions, provisions qui sont nécessaires pour assurer la survie de la victime, pour assurer sa possibilité à se défendre, parce que tous les recours, toutes les démarches qui sont faites ont un coût. Et donc, si la CIVI ne prend pas en compte cet aspect finalement alimentaire et nécessaire du fait d'octroyer à la victime une provision en attendant que l'expertise statue précisément sur les préjudices, alors, à mon avis, elle ne remplit pas son rôle efficacement.
Je rappelle que la CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Michel Atangana, malgré ses lourdeurs procédurales, pourquoi vous continuez ?
Pour ne pas céder à la pression insipide des États qui briment, qui brident et qui détruisent la vie humaine. Je refuse cela. Détermination absolue, ne pas lâcher et ne pas donner ces cultures la résignation. Donc je tiendrai et je continue à me battre jusqu'au bout.
Et vous parliez d'expatriation, une expatriation sereine et digne pour les Français qui vont à l'étranger.
Je pense que l'individu est plus important que la raison d'État. Ça, je parle en tant que victime. Donc je m'adresse à tous les Français qui vivent à l'étranger pour dire que votre vie compte. La France a des responsabilités pour vous protéger dans ce que vous êtes, vous et vos familles. Maître vient de parler de nécessité alimentaire. Quand on arrête une victime, c'est toute la chaîne humaine de cette famille qui est totalement détruite. Donc, on peut se cacher devant les formalités, les procédures. Mais d'abord, où est la place de la vie humaine dans cette procédure? Et moi, je dis aux États, réveillez-vous. La vie humaine est indispensable.
La loi Atangana est tout de même une belle victoire d'étape, Maître Legrand.
Ah oui, je pense que c'est une victoire extrêmement importante et que voilà, il faut saluer le travail de tous ceux qui l'ont porté, y compris donc les parlementaires. Et il faut rappeler que le groupe de travail des Nations Unies, il avait été créé à l'origine par la France, qu'il était quand même assez singulier que la France n'ait pas d'outils permettant de faire appliquer ensuite ces décisions du groupe de travail sur son propre territoire. Donc ces choses maintenant réparées. Et effectivement, il est absolument nécessaire que le même chemin soit suivi par les autres États européens.
Michel Atangana, vous avez en effet décidé de porter le combat au niveau européen. Où en êtes-vous avec cette procédure européenne ?
Bruxelles nous a déjà accordé une belle écoute, qui nous a envoyé à Strasbourg pour le Conseil de l'Europe. Et on a rencontré le 21 mai l'ambassadeur des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Théoriquement, nous devrions aboutir rapidement à une inscription de l'examen de cette loi au niveau du Conseil européen. Sauf surprise, parce que c'est une innovation juridique majeure de la France et que le Conseil de l'Europe voudrait la faire appliquer pour les 700 millions d'habitants du Conseil de l'Europe. C'est des rêves que je faisais quand j'étais en détention, témoigner et aussi participer à ce que les Français ou les Européens maintenant ne subissent pas les mêmes effets de la violence, l'arbitraire.
Il y a à ce jour 1200 Français incarcérés à l'étranger, dont environ la moitié sans cause connue.